Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Salut Richard.
Hey Mario, es-tu en train de me dire que la NRA, c'était un organisme à but lucratif? Que comme une entreprise privée qui voulait faire de l'argent?
C'est un excellent point que tu soulèves. J'ai lu la nouvelle telle quelle, là, mais je sais pas. C'est vrai, normalement, une association comme ça, c'est de défense des droits, c'est sans but lucratif, ouais.
Est-ce que t'as écoute, je viens de prendre une marche, je veux rien te dire ça rapidement, je viens de prendre une marche avec ma fille dans un parc, elle avait son masque, j'avais mon masque, elle a 25 ans. Et elle disait, papa, c'est vendredi, je devrais être contente, je devrais dire, wow, c'est le fun, je vois mes amis ce soir, on va avoir du fun, on va faire un party, on va aller souper, tout ça. Elle dit, la vie est plate en maudit, puis elle respecte les règles, puis elle comprend le sérieux de la situation, tout ça, mais reste qu'elle a 25 ans. Et je pense à tous ces gens-là, tous ces jeunes-là, là,
ouais, c'est
qui devraient avoir
chose.
Du fun, puis tout ça. C'est dur, là. Elle me disait ça, puis que mon cœur de père se serrait un peu en disant, « Elle devrait avoir du fun, là. » Tu sais, c'est un an de leur vie, littéralement, qui a été enlevé parce que des gens avaient envie de manger des chauves-souris puis du pangolin. Christy, j'en reviens pas. Incroyable.
Bon, t'as raison.
Ben ouais,
t'as raison, ça... mais ils vont être faits plus forts après, puis
oui,
ils vont avoir une belle
je sais
vie.
Bien,
Est-ce que t'aimes le nouveau nom de l'Impact? Le football club, le club de football.
Le club de foot, on dit pas foot ici. Ça nous énerve quand on utilise des anglicismes. Ça nous énerve quand on prend des mots anglais.
On dit foot, on le dit foot, mais c'est pas le même sport.
Non, c'est ben ça. Oui, non, c'est soccer. Je veux dire, je sais pas, pourquoi foot? Et deuxièmement, est-ce qu'on va changer le nom des Canadiens de Montréal pour le club de hockey de Montréal? Y a-t-il quelque chose de plus plat? Tu sais, le fromage, le migneron, là, ça va s'appeler fromage de Charlevoix. C'est d'une platitude plate, c'est comme un nom générique. Là. L'Impact, c'est beau, l'Impact, ça se dit en anglais, ça se dit en français aussi. C'est avec là, club de football de Montréal. C'est assez plate, Christy.
T'es déçu.
Club de foot de Montréal, c'est bien niaiseux, on le sait. Club de hockey de Montréal, plutôt que les Canadiens de Montréal, ça ajoute une couleur, il y a quelque chose.
Mais j'ai compris, Richard, aussi, que le logo veut pas... Je comprenais que ça faisait un flocon, mais c'est un snowflake, là. Tu l'utilises, on l'utilise souvent, là, mais comme une insulte, là. T'es un snowflake. Ils vont se faire dire ça sur le terrain, se traiter de snowflake.
C'est aussi comme inclusif aussi, là. C'est tout des ça pointe tout vers le centre, dans la même direction. On inclut. Il y a quelque chose là-dedans, là.
Ouais.
Mais tu sais, c'est-tu vraiment important? C'est-tu vraiment essentiel? Il y a toujours des gens qui arrivent, là. Des consultants, là. Avec des lunettes funky. C'est tout le temps ça, pour moi, des consultants. Tout le temps des lunettes weird, là. Puis là, ils disent, là, vous avez besoin d'un nouveau
nom. C'est des lunettes à la mode, là.
Ben oui, des lunettes en mode là, qu'ils ont achetées au Danemark. Et là, ils disent, là, vous avez besoin à tout prix de changer. Changer le look, là, changer le nom, puis le logo, puis tout ça. Là, tu dis, qu'est-ce que ça donne? Ils vont-tu être meilleurs?
Mais c'est drôle, hein?
Qu'est-ce que ça donne?
C'est drôle que tu parles de lunettes puis de Danemark. Moi, c'est au Danemark que j'ai réalisé que ça me prenait des lunettes.
Pourquoi?
Hein?
Oui,
pourquoi?
C'est vrai,
mais
pourquoi?
Non, mais je suis allé à Copenhague avec ma fille quand elle étudiait l'année qu'elle étudiait en Europe. Puis, à un moment donné... on est dans un petit magasin là, de cochonnerie, de gadgets, tu sais. Puis je veux lire les instructions. Puis c'est quoi cet objet-là? Je veux lire les instructions, mais je suis pas capable. J'ai pas le bras assez long, tu sais. Puis je vois plus clair. Puis elle est vis-à-vis un comptoir où il y a des lunettes de lecture, tu sais, des lunettes déjà ajustées, là.
Oui.
Fait qu'elle m'en pogne une paire, des lunettes qui se dépliaient en 8, là, qui font un petit bâton déplié en 8. Elle pogne une paire, elle me donne ça, elle dit, essaye donc ça. Je me mets ça d'en face.
La révélation.
Je vois parfaitement. Je vois tout. Mais là, depuis ce temps-là, je porte des lunettes.
T'as acheté une super...
Mais là, je les ai pas achetées là-bas, c'est ça. Mais là, c'est ça, c'est ça.
Funky, là, avec un
mais non,
ou
mais non parce que je les ai achetées à la pharmacie à mon retour. Je me suis pas acheté des lunettes au Danemark, j'aurais dû.
Ben oui, des lunettes en bois. Tu sais, des lunettes avec un aimant entre les deux yeux, là, t'es mets comme toux, ça colle, là, ça fait des lunettes.
En tout cas, bref. Bon, tu te demandes qu'est-ce que ça prend pour que les gens prennent au sérieux la COVID.
Non, mais écoute, on a tout. Je sais pas si tu as lu le reportage. Vous avez lu le reportage dans la presse aujourd'hui sur les soins intensifs. C'était fait par 3 ou 4 journalistes. C'était très, très, très percutant. Écoute, ils sont vraiment en train de péter aux frettes le personnel là-bas. Une fatigue non seulement physique, mais psychologique, parce qu'ils sont écœurés de voir des gens mourir. Écoute, là, quand quelqu'un est en train de mourir, ils appellent leur fils, par exemple. Votre père est en train de mourir. Avez-vous quelque chose à lui dire? Oui, j'aimerais que lui dire que je l'aime beaucoup. Puis là, ils vont lui chuchoter ça à l'oreille. Ils disent les médecins sont pas faits pour vivre ça. Les gens qui crèvent tout seuls, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'aimais beaucoup le docteur Simon qui disait, pour faire comprendre aux gens, là, Christy, là, l'importance de la situation, il dit, quand tu as une crise cardiaque, c'est 2 à 3 jours aux soins intensifs. Quand tu as une pneumonie, c'est 6 jours aux soins intensifs. La COVID, c'est 14 jours. C'est 14 jours aux soins intensifs. Pendant ce temps-là, tu occupes un lit pendant 2 semaines que quelqu'un d'autre peut pas occuper. Et là, quand j'ai lu cette semaine, un chroniqueur de la presse qui dit « Ouais, c'est plate, je peux plus aller faire mon petit jogging après 8 heures. J'aimais ça, moi, faire mon petit jogging avec mon ami, puis je peux pas le faire. » Ça me fait capoter. Et Dr. Simon, il dit « Ça, c'est quand ton nombril devient un cratère. » C'est vraiment, là, c'est comme... Il y a un couvre-feu, c'est parce qu'il y avait des gens qui se rendaient les uns chez les autres en auto. On a fait un couvre-feu. C'est certain que tu peux aller en auto le soir, seulement te promener, faire du millage, puis écouter de la musique, puis écouter des balados, des podcasts, puis tu reviens chez toi, tu constitues pas un danger. C'est vrai que tu peux faire ton petit jogging, tu constitues pas une menace. C'est vrai que tu peux aller faire de la luge le soir aussi, tu constitues pas. Mais tu sais, à un moment donné, un couvre-feu, tu peux pas aligner tout le, multiplier toutes les exceptions. Tu le fais ou tu le fais pas. Le Christy de couvre-feu, tu sais. Fait qu'ils l'ont fait pour, je pense, des bonnes raisons. Si tu veux courir, va courir à 7 heures, mais arrêtez de vous regarder le nombril. La situation, là, ça tient à un fil. Vraiment, le système, et je disais ça, là, c'est percutant, maudit. Là.
Parlant de percutant, tu reviens sur ce documentaire concernant les cultes religieux et les enfants.
Oui, alors c'est Marc-Claude Barrette et Patricia Beaulieu à la réalisation. Ce week-end, ça va être une tempête de neige, vous restez en dedans, vous devez à tout prix regarder ça, c'est sur Illico. D'ailleurs, je lève mon chapeau à Illico qui produit et distribue maintenant des documentaires. C'est bien le fun de regarder des documentaires sur Netflix, mais ça se passe à Milwaukee, au Tennessee. Ça, c'est des documentaires qui se passent chez nous.
Qui se passent à Bois-Briand puis en Gaspésie, puis qui se passent chez nous.
Exactement, exactement. Donc, c'est les enfants. Écoute, c'est émouvant, choquant et inspirant. Je vais vous dire pourquoi. Émouvant parce que ce sont des enfants qui ont eu une enfance de marde, littéralement, qui ont été battus à répétition, agressés sexuellement. C'est vraiment une enfance volée, aucune éducation.
Quand tu les écoutes, t'as l'impression que c'est quasiment ça qui est le pire à la fin, hein?
Oui.
Mais c'est dur de mettre dans l'ordre, là, t'sais, être maltraité physiquement, être abusé sexuellement. Mais l'absence d'éducation, là, c'est un vide dans une vie terrible.
Un jeune juif hassidique qui part de Bois-Briand, qui réussit à se sortir de qui avait quoi, dans 20 ans, je pense, qui réussit à sortir de là, qui traverse le pont Jean-Cartier, puis qui dit, hey, c'est quoi l'eau en dessous du pont? C'est quoi cette rivière-là? C'est le fleuve Saint-Laurent. On y avait jamais appris.
Il n'y avait jamais entendu le nom.
Ça, c'est le côté émouvant. Puis vraiment, là, je trouvais ça des fois très difficile à entendre. Le côté choquant, c'est qu'on a abandonné littéralement ces enfants-là sous prétexte que c'est une secte religieuse. Ah, là, il n'y a rien à faire, c'est la religion. Marie-Claude, à un moment donné, elle a son téléphone, puis elle vient de recevoir un courriel. Elle avait demandé au ministre de la Santé et des Affaires sociales de l'interviewer, et elle voulait aussi parler au ministre de l'Éducation, M. Roberge. Comment ça se fait qu'on a abandonné ces enfants-là? Oh, on a regardé le thème que vous voulez aborder dans votre entrevue. Non, c'est une fin de non-recevoir. Aucun niveau ne voulut lui parler, ni le ministre de l'Éducation, ni le ministre de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi? Ce sont des enfants que nous avons abandonnés littéralement. Et d'ailleurs, eux autres, ils en veulent autant à leurs parents de les avoir amenés dans ces affaires de crackpot-là qu'au gouvernement de les avoir abandonnés. Mais ce qui est fort de ce documentaire-là, c'est que c'est inspirant. ces gens-là, qui avaient 14 ans, il y a une jeune fille, entre autres, le Mario, là, tu sais, la fille qui est tatouée, là, puis que les cheveux longs, là. Mm-hmm. Je sais pas comment, je pense qu'elle s'appelle Penelope, je suis pas trop sûr, là. Mais comme elle avait 14 ans, je pense, à un moment donné, elle laisse ses parents, ses frères, ses sœurs, elle sait qu'elle les reverra jamais, elle court dans le champ, en pleurant, elle fout le camp, et ces enfants-là sont partis, ils savaient pas où ils allaient aller, il y avait aucune éducation, il y avait pas de famille, il y en a une qui a vécu dans la rue, tu peux comprendre qu'elle s'est prostituée aussi, et s'en sont sortis. Aujourd'hui, ce sont des citoyens qui fonctionnent, qui sont beaux, qui sont inspirants, qui ont des enfants. Cette fille-là qui a fait de la prostitution, elle a maintenant son entreprise, elle a une maison qu'elle vient de s'acheter d'ailleurs à Pleurs, quand on en parle. Et tu les regardes et t'es fier d'eux autres. Imaginez le courage, là. Il faut que tu rejettes tout ce qu'on t'a appris pendant toute ton enfance, là. T'as 14 ans, tout ce qu'on t'a appris.
En fait,
faut que tu prennes ça,
Richard,
ça aux poubelles,
faut que tu rejettes tout ce qu'on t'a appris. Et tout ce que t'es pas capable de signer un bail, tu sais pas compter, tout ce que tu devrais savoir, tout ce qu'on aurait dû t'apprendre d'utile qu'on enseigne dans le système d'éducation, pour une bonne partie, t'es en méga déficit de ça.
Ben, c'est épouvantable. Et t'as le fils de Moïse Thériault qui dit, Moïse Thériault, on le connaît, qui est complètement fou. T'apprends à un moment donné qu'il a coupé le scrotum d'un gars de sa secte. Il l'a castré puis il m'a mis ça dans un bol avec de l'alcool où il y avait déjà un doigt du bonhomme puis un orteil du bonhomme. Un fou furieux. Lui dit, le sang de mon père coule dans mes veines. Puis il monte ses bras. Le sang de mon père coule dans mes veines. Et lui, j'étais sûr que je pourrais pas être un bon père. Et finalement, il y a eu deux enfants. Et ses filles sont là et témoignent. Et ça, c'est très touchant, en disant, papa, t'es un super bon père. Et lui, il est tout content. Il a réussi ça. Que des gens que tout jouait contre eux autres aurait pu être détruit totalement. Et ça finit toute la fin du documentaire et quelque chose. Tu sais, c'est pas misérabiliste. Ça montre des gens courageux, des gens inspirants. Mais tabarnouche, moi, je veux, là. Vraiment, il faut pas lâcher. Il faut que M. Roberge, il faut que M. Dubé répondent aux questions que Marc-Claude voulait leur poser. Comment ça se fait qu'on n'a rien fait pour ces enfants-là? Et ça continue au moment où on se parle. Il y a encore des écoles illégales. Il y a encore des sectes qui frappent leurs enfants, qui les battent. Vous devez regarder ça 2 fois 41 minutes. C'est super bon. Ça s'appelle Culte religieux, les enfants oubliés.
Merci, Richard.
Sur Hélico. Merci, bon week-end.
Salut, bonne fin de semaine.